les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Axéo Drieux-Combaluzier et Bâti Santé sur Radio Immo.
Eh bien, salut à tous et merci d'être avec nous. Bonsoir. On est en direct ici au Pavillon Dauphine avec nos amis de l'UNIS de Paris-Île-de-France. On est en direct. On va justement examiner un certain nombre de sujets qui sont un peu brûlants cette fin d'année, avant la trêve des confiseurs et les repos bien mérités. Pour en parler, on ne pouvait pas faire moins. Nous avons Henri Buzy-Gazot sur le plateau. Bonsoir Henri. Comment ça va ?
Pleine forme.
Voilà, Henri, journaliste, essayiste, patron de l'IMSI, l'Institut des Managements des Services Immobiliers, advisor, enfin vous avez un CV épais, comme le voir, pour dire qu'au bout combien, 30 ans, 35 ans ?
35 ans, voilà. 37. Moi je dis que ce qui me titre pour m'exprimer ce soir, notamment, c'est d'avoir 35 ans d'immobilier, de fidélité à ce secteur.
Oui, ce qui serait quand même assez avisé, c'est que la nouvelle ministre du Logement vous prenne comme conseiller, comme vous l'étiez à l'époque, avec Pierre Mignory, rassurerait la profession.
Mais je crois qu'elle n'est pas indifférente à ce que je peux dire, et moi ça me suffit, ça me va.
Tout à fait. Voilà, un grand monsieur de l'immobilier également qui est avec nous sur le plateau, il est le président du Cercle des Managers, et bien sûr il est à l'UNIS Paris-Île-de-France, Benjamin Darmoni, bonjour, plutôt bonsoir.
Bonsoir Sylvain.
Comment ça va ?
Très très bien.
Gros dossier en ce moment. Alors, est-ce que c'est une victoire ou pas ? Premier élément, je voudrais vous solliciter tous les deux sur la question. A été annoncé, on l'a d'ailleurs fait un direct samedi matin sur Sud Radio sur cette question. L'encadrement des loyers aurait été retoqué par l'installation, par le, je crois que c'est le Conseil d'État, me semble-t-il, qui a retoqué l'idée de l'encadrement des loyers. C'est Paris qui s'est fait épingler. La profession dit, c'est le début. Finalement de retoquage de l'ensemble des dispositifs de l'encadrement des loyers dans les grandes métropoles. Que faut-il y voir, Henri ?
Bon, alors, moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Les organisations qui avaient attaqué ce dispositif, l'UNPI, la propriété immobilière, mais aussi l'UNIS et la FNAIM, à ma connaissance, ces trois organisations, d'abord, sont vigilantes depuis le début sur la régularité, la licéité du dispositif. Donc il y a eu un certain nombre d'instances, il y en a eu plusieurs, qui ont été gagnées par le passé ou qui ont été perdues. Aucune n'a mis à bas le principe de l'encadrement. Bon, aucune n'est parvenue à faire dire au législateur « on s'est trompé, on revient en arrière ». En revanche, des vices de forme, il y en a eu, plusieurs. Par exemple, on avait constaté que la loi n'avait pas précisé que l'encadrement pouvait concerner une seule ville, mais toute une zone, c'est-à-dire la ville et sa périphérie, par exemple à Lille, par exemple à Paris. L'encadrement, lorsqu'il ne concernait pas l'ensemble du territoire de la zone fixée n'était pas légal, et donc l'encadrement a été attaqué de cette façon-là, si ma mémoire est bonne, à Lille. Il a été remis en question, et ce qui a été fait, c'est qu'on a revu la copie. Bon. Et puis ensuite, d'ailleurs, la loi est repassée par là, et le législateur est venu dire que ça pouvait ne concerner qu'une ville, et c'est la dernière version de l'encadrement. Donc ce qui se passe, c'est que tout n'a pas été bien fait dans chaque ville concernée par l'encadrement, et des incriminations judiciaires ont fonctionné. Ça ne met pas à bas le dispositif. Ce qui va se passer là, c'est que pour la période concernée, parce que c'est une période qui est concernée, hein, c'est pas tout l'encadrement, où le préfet de Paris n'aurait pas bien contrôlé les références de loyer, etc., eh bien, on va veiller au grain pour la suite. Alors ça pose quand même la question de savoir si les propriétaires qui ont dû baisser leur loyer pour se mettre dans l'encadrement à ce moment-là ne vont pas légitimement demander une indemnisation. Moi, je serais eux, je le ferais. C'est-à-dire, je dirais, puisque le dispositif est reconnu mal assuré, certes, des organisations, on leur a donné, je crois, 375 euros. C'est symbolique, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est chaque propriétaire qui peut dire, moi, je suis pas d'accord. Je me suis plié à un dispositif qui n'était pas légal. En clair, j'ai respecté une limitation
de vitesse, je suis arrivé en retard. L'État pourrait être sommé de rembourser le différentiel
Je pense que l'État et la ville solidairement, là-dessus, sont fragiles. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des imperfections, et on risque d'en identifier encore d'autres, il y a des avocats très attentifs sur ce sujet, ils font leur job, mandatés par des clients, qui sont des grandes organisations, ça ne veut pas dire que l'encadrement soit illégal. Le Conseil constitutionnel n'a pas décrété que l'encadrement était anticonstitutionnel. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas crier victoire. On voit qu'il y a des faiblesses dans le dispositif. Et c'est vrai que les coups de boutoir qui sont portés régulièrement et de façon légitime, parce que l'UNPI...
Henri, voilà, est-ce que ça va se généraliser aux mesures d'encadrement des autres grandes métropoles?
Moi, je pense que c'est possible, mais il n'y a pas non plus de raison de penser que la faiblesse qui a été identifiée sur une période à Paris le sera dans d'autres okay. communes.
Donc, ceux qui disent finalement c'est un haro sur l'encadrement des loyers,
je pense qu'ils vont vite.
C'est une erreur.
Hein, je pense qu'ils vont vite en besogne. Et d'ailleurs, moi, j'entends que les communications qui ont été faites, par exemple par mon voisin, hein, par Benjamin Darmoni, au titre de l'UNIS du Grand Paris, ont été prudentes. Je n'ai pas lu. Si, j'ai lu quelques messages, mais je trouve un peu légers, mais qui ne venaient pas des grandes maisons.
Sur les réseaux sociaux, ça a été indiqué comme étant une victoire de la profession.
Oui.
Benjamin, sur le sujet.
Non, victoire de la profession, oui, puisque la profession se bat pour défendre ses adhérents et défendre le fait qu'aujourd'hui, on trouve que l'encadrement des loyers n'est pas justifié à Paris. Certainement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que l'encadrement des loyers à Paris est remis en cause à la date où on se parle? Non. Aujourd'hui, il faut respecter l'encadrement des loyers. Est-ce que maintenant, sur la période de 2019, elle a été considérée comme illégale? La réponse est oui. Maintenant, est-ce que l'État ou est-ce que la mairie va indemniser les propriétaires qui n'ont pas pu louer au prix qu'ils voulaient leur appartement?
C'est probable.
Rappelons que c'est une perte de chance. Et rappelons aussi que on ne sera pas capable de dire que on aurait pu louer l'appartement 1, 2 ou 3 euros du mètre carré supplémentaire. Donc, et puis il faudrait faire une class action, il faudrait tous se réunir. Et je pense que, sincèrement que j'y crois pas trop.
À suivre. Deuxième sujet, ça y est, c'est fait, c'est adopté. Donc la commission mixte paritaire donc a validé, les deux chambres l'ont fait, la loi Lemeur est promulguée. Loi Lemeur, je vous la fais courte, on en a beaucoup parlé, mais ça y est, c'est fait maintenant. Je vais être volontiers provocateur. L'idée, c'était d'aligner les fiscalités pour qu'il n'y ait plus d'inéquité dans les modèles d'exploitation immobilière, ce qui finalement est assez constitutionnel dans l'esprit fiscal, mais aussi, bien évidemment, de redonner en termes de capacité de logement sur des baux long terme, du logement dans des zones dans lesquelles, effectivement, et on peut le comprendre, les propriétaires avaient jeté leur dévolu sur des dispositifs qui étaient attractifs pour eux fiscalement. Premier élément fiscal, mais il n'y a pas que ça. Ils échappaient également à la réglementation normative sur les diagnostics de performance énergétique et les travaux à réaliser, puisqu'ils n'étaient pas soumis aux mêmes règles de location aux étiquettes énergétiques, en sachant que la rotation était telle qu'on n'aurait jamais vu un usager demander à faire des travaux lorsqu'il restait une semaine, 15 jours ou 3 mois dans l'habitat. Donc réaction sur la loi Lemeur. Et enfin, il y avait le troisième point. L'idée d'Anaïs Lemeur, c'était vraiment non seulement d'aligner la fiscalité, mais quelque part de briser l'élan fiscal de cette niche pour les propriétaires dans des zones où il y a de vrais sujets qui sont même socialement inquiétants. Je pense par exemple à l'arc atlantique, hein, avec des zones comme Biarritz, qui est un vrai sujet où on peut plus se loger, mais aussi les zones montagneuses, mais aussi également la zone du golfe du Morbihan, par exemple, en façade mer, où on ne trouve plus du tout, ni pour les saisonniers comme pour les habitants, de logements. Réaction sur justement l'alignement de cette fiscalité. Je sais que la profession était plutôt pour. Benjamin.
Mais alors, non seulement la profession était pour, mais elle était demandeuse, et je crois que c'est un peu, on ne va pas se mentir, grâce à nous, parce que vous savez qu'on a toujours défendu le statut du bailleur privé. C'est quoi le statut du bailleur privé? c'est le même statut pour tous. Qu'on fasse du vide, du meublé, du court terme, du touristique. Enfin,
c'est vrai que ça, c'est une règle de bon sens. Quoi.
Mais c'est une règle de
bien
bon
sûr,
sens.
Bien sûr, quelle que soit la classe d'actifs ou l'orientation.
À quel titre aujourd'hui, quelqu'un qui louerait vide devrait avoir des obligations de fournir un DPE différent de celui qui louerait en location touristique de
Benjamin, on a interrogé des propriétaires, je vous dis ce qu'ils nous ont dit dans les sondages, et on les comprend. On est matraqué fiscalement. Hein. Je reprends les termes. On a fait un micro-trotte. On est matraqué fiscalement. On pèse sous la norme. Ça devient moins en moins intéressant d'investir dans l'immobilier. Donc, on est allé naturellement sur des petites surfaces vers la location de taille, de surface petite, meublée, parce qu'effectivement, c'était le seul moyen de rentabiliser leurs investissements. Il faut aussi les écouter, ça s'écoute.
Alors, évidemment qu'on les écoute, et ça, on n'a pas de problème. Moi,
je vous
parle de la situation des bailleurs entre eux. Voilà. Alors qu'il y a une niche fiscale pendant des années, qu'elle a duré, perduré, et qu'aujourd'hui, on dise maintenant, on va mettre le holà et on va rendre égalitaire tous les bailleurs en France. Ça me paraît quand même une logique implacable. On aurait pu faire aussi la démarche inverse, qui aurait été de dire ceux qui louent en vide auraient pu amortir leurs biens.
Ça aurait été génial.
Ah ben voilà. mais c'est pas comme ça, c'est pas le sens de l'histoire. On est d'accord.
Henri.
Bon, alors je
sur l'esprit de la loi et l'application.
Alors pour commencer, c'est désormais une loi, elle a été en effet promulguée il y a quelques jours, c'est-à-dire signée par le président de la République, je rappelle ce que veut dire la promulgation, et votée quelques jours plus tôt. Je voudrais rendre hommage aux deux co-auteurs, alors certes il y a Anaïs Glebeur, députée du Finistère, qui est une femme très pragmatique et très attentive à ce que la profession peut souhaiter pour ses clients, mais aussi un député du Pays Basque, voilà, de mon pays, Iñaki Etxaniz, qui, et c'est intéressant, est d'une sensibilité politique différente, d'un autre territoire, mais également atteint, le Pays Basque est peut-être le territoire le plus atteint par ce
absolument
manque d'offres locatives.
Absolument.
Pour ceux qui y vivent et qui, à longueur d'année, ont besoin d'y être locataires.
Ah ouais.
Donc, en fait, une loi d'abord. Première caractéristique, partagée par tous les courants politiques et par les députés ou les sénateurs dont les territoires sont souffrants. Bon. Et deuxièmement, en une phrase, cette loi, elle est parfaite. Voilà. Je vais être un peu loin, je ne sais pas si la perfection existe, elle pourra.
Vous êtes d'accord que l'alignement fiscal est une règle
mais
de bon sens.
Elle est équitable, on vient de le dire, elle rétablit de l'équité qui s'était absentée, mais aussi parce qu'à une époque, on avait besoin de faire se lever des locations meublées touristiques. Voilà, il ne faut pas non plus refaire l'histoire. Hein. Et puis tout d'un coup, on est passé de quelques 80 000 locations touristiques à 1 million d'euros. Tout okay. Cela en 10 ans. Bon, donc on est évidemment tombé dans l'excès au détriment des locations de longue durée, parce qu'un même logement, il peut avoir deux destinations, et que le contribuable bailleur choisissait ce qui lui était le plus favorable, sans penser à l'intérêt général de sa commune, bon, pour le dire très clairement. Et puis il y a aussi ceux qui louaient, c'est concerné par cette loi, leur résidence principale.
Absolument.
Ils pourront toujours le faire, mais avec des obligations majorées, notamment d'essence écologique, ceux-là vont pouvoir continuer à le faire, mais peut-être avec des durées moindres, c'est 120 jours par an au maximum. Ça peut passer à 90 si le maire,
c'est le projet,
si une délibération du conseil municipal le décide. Voilà. Donc on met de l'ordre avec un objectif qui est d'éviter les dérives et les excès. Il y en avait eu, très clairement, y compris dans le manque de transparence, et une grande enseigne Airbnb l'a reconnu. N'a pas tiré à boulet rouge sur cette loi. Ils ont été, je crois, tout à fait raisonnables. Le deuxième grand sujet n'est pas réglé par la loi Lemeur, c'est celui de l'attractivité, à proprement parler, de l'investissement locatif de longue durée, nu ou meublé, mais en particulier nu. Aujourd'hui, dans cette loi, ce n'est pas en dégradant l'intérêt des locations meublées de courte durée qu'on va redonner de l'intérêt. Enfin, c'est quelque chose de pervers, quoi. C'est comme si on mettait un handicap sur un type d'investissement en se disant, ben, du coup, tout le monde va aller voir l'autre. Ça, ce n'est pas évident, parce qu'il manque de l'attractivité à l'investissement locatif de longue durée, qu'il soit fiscal, qu'il soit de diverses natures. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'obligation exigeante de décence énergétique qui pèse, etc.
Il n'y a pas de risque.
L'encadrement en fait partie.
Il n'y a pas de risque, juste pour bien compléter cette question, parce que j'ai deux autres sujets, je voudrais absolument avoir votre avis sur la question.
On ne tue pas les locations meublées de courte durée.
D'accord, il n'y a pas de risque de désinvestissement, de brandir la menace. Vous avez vu sur Internet des grandes plateformes, vous savez, qui faisaient la promotion de meublés saisonniers, qui se sont dit, voilà, on va tous se mettre au chômage, ça va être la Bérésina, c'est une catastrophe, vous les avez vus, les plateformes.
Non.
C'est pas une menace sur le meublé touristique, Henri Buzicazo.
J'ai envie de dire, on le verra, mais je n'y crois pas à l'instant. Maintenant, il y en a qui sont dans leur rôle en criant au loup. Mais franchement, le législateur a fait le job. Le législateur, quand il y a des dérives ou des excès, constatés 10 ans, 20 ans après un phénomène,
les
il doit réguler.
Les professions immobilières, vous êtes d'accord, messieurs, elles sont pour. Elles plaident pour cette idée et elles ont eu raison. Vous êtes d'accord là-dessus, Benjamin?
Sans aucun doute.
D'accord.
Sans aucun doute.
Alors,
Mais c'était demandé depuis tellement longtemps. Il y avait une disproportion quand même.
Alors, c'est pas anodin. Ma question n'est pas anodine. Les professions immobilières sont pour, car contrairement à ce qu'on a écrit dans la presse, ce ne sont pas les propriétaires représentés par les corps intermédiaires ou des opérateurs qui ont dit non, on ne peut pas, etc. On nous prend encore des privilèges ou c'est des niches qu'on veut absolument préserver. Administrateurs de biens, syndicats de propriété et transactionnaires sont pour cet alignement fiscal. C'est important que vous le disiez. En tout cas, au titre de l'UNIS,
les professionnels de l'immobilier ne peuvent être que pour l'égalité entre les contribuables, entre tous les Français. Enfin, il y a un moment. Pourquoi on est pour le statut du bailleur privé, c'est parce que toutes les mêmes règles pour tous.
On est d'accord. Donc, alors, autre dossier sur lequel on vous met pas en cause. On dit simplement, il faut que les professionnels de l'immobilier, encore une fois, et Henri Buzicazo, à mon avis, va être très disert sur la question, puisque franchement, vous êtes souvent pris comme une variable d'ajustement de contrôle absolu. On veut faire de vous des huissiers, des dépositaires de la signature publique. Enfin, voilà, c'est incroyable. Alors, le phénomène est quand même inquiétant. Fraude à la rénovation énergétique. Chiffre 2023 sur l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. C'est 400 millions d'euros, sans compter des fraudes massives sur des effets d'aubaine, comme par exemple les robinets thermostatiques et les radiateurs connectés. Alors, radiateurs connectés, ça a été finalement des méthodes de voyous, on peut dire les choses comme ça, avec le vol massif de données, de trafic sur des dossiers qui ont été faits pour soulever des aides, ou des aides à l'autoconsommation également, qui ont été très largement détournées. Le phénomène a pris à une telle ampleur que le législateur a dit « stop », que l'ANAH renforce ses moyens et ses dispositifs et demande aux professionnels qui sont les intermédiaires, encore une fois, de ce type d'opération, d'avoir plus de vigilance. Juste une question, alors je ne vais pas faire du journaliste pour provoquer, mais Henri, est-ce que c'est encore une façon de mettre à contribution les professionnels de l'immobilier, une fois de plus, dans un rôle qui n'est pas le leur, forcément? Ou est-ce que c'est leur rôle? J'aimerais bien avoir votre avis là sur la question.
D'abord, dès qu'il y a aide publique, il y a détournement. Les aides à l'apprentissage, enfin voilà, hein, bon, pour parler de quelque chose que je connais un peu. Aide publique, malheureusement, c'est donner des idées à des personnes qui sont malveillantes. Est-ce que les professionnels de l'administration de biens, de la transaction, de la construction, doivent prendre part à ce contrôle, à cette discipline? Et est-ce que...
On dit que c'est eux les donneurs d'ordre.
Est-ce que ce n'est pas... eux-mêmes, évidemment, au titre du conseil de fait à leurs clients, apporté à leurs clients, vont provoquer des travaux en indiquant, éventuellement avec l'aide de start-up, tout à l'heure on va écouter une brillante start-up dont c'est la fonction, hein, d'assister les administrateurs de biens pour mesurer quels travaux ils veulent faire et aller chercher l'ingénierie financière et les aides. Bon. Donc, ils sont à l'origine de la consommation des aides et même, on le veut, on veut que les syndics déclenchent des travaux en copropriété qui vont donner lieu à consommation de MaPrimeRénov', par exemple. Bon. Donc, est-ce qu'il faut dire que ça n'est pas leur mission ensuite de contrôler? Moi, je constate qu'on élargit tout le temps leur mission. Ça, c'est la vérité. Quand on les associe à la lutte contre les marchands de sommeil, contre les violences conjugales, et tant d'autres rôles dans lesquels on les fait entrer, malheureusement, je comprends qu'ils puissent s'en indigner, mais ça fait partie de leur mission d'exercer aussi une vigilance, autant qu'ils peuvent le faire, parce que le sujet, il est là. Le sujet, il est là. Ils ne pourront pas aller très loin. Que va faire un administrateur de biens? Est-ce qu'il lui appartient de contrôler qu'une entreprise... Alors, il doit mesurer, par exemple, si elle est reconnue garant de l'environnement pour donner accès aux aides.
Oui, et ensuite.
Bon, s'il a des détournés, si l'entreprise... parce qu'on a, on a tous les cas de figure hein, dans les 400 millions. Hein,
oui.
Les entreprises qui ont déposé et sont parties avec les aides.
Exact.
Et on ne sait même plus où elles sont.
Exact.
Que voulez-vous que fasse un administrateur de biens, fasse une entreprise qui va déposer? Il
exact.
A regardé le bilan, il était équilibré, et puis derrière, il y a eu la scorcurie.
C'est la résolution de la quadrature du cercle, surtout qu'en plus, ils se sont rendus compte, à cause de l'absence de contrôle, ça c'est un effet, et ça, c'est l'ANA qui nous l'a rapporté, qu'effectivement, des personnes qui ont été labellisées RGE ne l'étaient pas réellement parce qu'ils n'avaient pas renouvelé leur label.
Oui, mais alors l'ANA.
Et continuent à l'utiliser.
On va se trouver aussi par rapport à quelque chose qui. Mais on va en pâtir. Et encore une fois, je pense que si l'administrateur de biens peut apporter modestement sa pierre à l'édifice, c'est son intérêt de citoyen même. Bon, voilà, ouais. Hein, comme on constate une violence dans la rue, ben on va la dénoncer, sinon l'empêcher. Après, on peut dire, moi, c'est pas mon boulot. Ben, je pense que c'est le travail du citoyen de s'interposer, en tout cas de dénoncer, de dire ça, ça va pas. Mais après, on va y perdre avec les délais. L'ANA annonce déjà que elle, c'est vraiment sa mission comme agence publique, hein, elle manie l'argent public, de vérifier et de renforcer les contrôles. Eh bien, vous savez quoi? Déjà, on se plaint que les délais sont trop longs. Et l'ANA fait beaucoup. Elle ne peut pas doubler ses effectifs. Eh bien, les délais, ils vont être rallongés, parce qu'il y a des gens malveillants, et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, quand vous voyez des contrôles qui font des embouteillages sur la route, je prends cette métaphore-là, ben c'est parce qu'il y a des gens qu'il faut contrôler, et ça va vous retarder 10 minutes, parce qu'on va contrôler qu'effectivement, ils n'ont pas pris la route en état d'ébriété, il y a des contrôles. Alors, ils vous disent, mais moi, je voudrais rentrer plus vite chez moi. Ben oui, monsieur, les contrôles, on est obligé d'en faire. Voilà, c'est un peu ça. On va voir des embouteillages, désormais, à l'ANA, qui va pas pouvoir rajouter 500 fonctionnaires et qui va rajouter des délais. Parce que le dossier, on va vérifier que le million, parce que c'est des grosses sommes hein, qu'on va donner aux copropriétés,
ah
c'est
voilà,
très bien,
oui, oui.
500 000, 1 million, 1 million et demi, est-ce que vraiment ça va là où ça doit aller? Ces contrôles,
Benjamin, parmi vos dossiers, en tant que professionnel également.
Non mais la réalité, c'est que c'est fait... lorsqu'on a des gros budgets comme 1 million, 1 million 5, 2 millions, 3 millions, le professionnel, c'est voté en assemblée, c'est validé, c'est vérifié, tout le monde peut surveiller la traçabilité. Le problème, c'est quand vous parlez, et là j'aimerais qu'on revienne dessus,
aux aides
sur les radiateurs, c'est des aides individuelles.
Très juste.
Les radiateurs et les connectés
juste.
Et les thermostats. Ça veut dire que le copropriétaire peut passer en direct sur l'arnaque, pour avoir
alors,
son aide.
Sur les arnaques, vous avez raison.
Excusez-moi.
Donc 80% des arnaques, pardon, non mais vous avez raison, juste pour préciser, que plus de 80% des arnaques constatées sur les 400 millions d'euros détournés concernent l'habitat individuel.
Mais donc le professionnel n'a pas le droit de regard, le syndic n'a pas le droit de regard. Donc il ne peut pas intervenir sans même savoir que le copropriétaire, en direct, a demandé une aide pour faire installer des radiateurs et des thermostats. Et c'est là où il y a, à mon avis, un malentendu. Je veux bien que ce soit toujours les professionnels, les responsables, les coupables.
Non,
là,
mais,
en l'occurrence,
non, mais Benjamin
on ne peut pas deviner.
Le gouvernement ne dit pas que c'est la faute des professionnels de l'immobilier. Il dit simplement que les professionnels immobiliers doivent faire devoir, et comme ils le font déjà par ailleurs... de vigilance, mais au même titre d'ailleurs.
Très bien, donc
voilà,
qu'on
voilà.
nous donne une mission, une nouvelle mission qui consistera à dire lorsqu'il y aura une demande d'aide dans un lot particulier bah, d'un copropriétaire, alors vous passerez par votre syndic qui fera une visite, il sera rémunéré pour ce faire,
exact.
Et il validera les installations. Mais
se pose la question effectivement du tiers de confiance, et notamment avec les fameux MAR, les Monaco-Monitor Rénov, qui qualifient des entreprises qui ont pour objet effectivement justement de répondre à cette question du tiers de confiance.
Oui.
Et là, on est en plein cœur dans le sujet. Je crois que c'est vous, Henri, qui l'aviez dit d'ailleurs à l'époque, que effectivement le syndic de copropriété est un tiers de confiance parce qu'il a une fonction intermédiaire entre différentes corps ou disciplines, y compris le bâtiment, et que finalement il serait logique que cela puisse vous échoir, encore une fois, avec un modèle économique. Parce que si on vous rajoute une compétence, il faut quand même, enfin, me semble-t-il, qu'elle soit sortie d'une recette. Hein,
Dans tous les cas où le professionnel n'a pas une autre mission centrale, c'est-à-dire il n'est pas syndic, il n'est pas gestionnaire locatif, il n'est pas agent immobilier pour conseiller un propriétaire vendeur qui va engager des travaux, il peut très bien être décrété compétent et moyennant une facturation, s'il est appelé par un propriétaire qui veut engager des travaux dans sa maison, qui peut y être obligé, on pourrait imaginer ça, à ce moment-là, moi je vais payer une vacation, en clair, de quelqu'un qui va contrôler ceci ou cela.
Exactement.
Bien sûr. Mais autrement, de toute manière, moi je vous redis que l'institution qui est concernée directement, et ça va peser très lourd sur ses épaules, moi j'avais un échange avec la directrice générale de l'ANA il n'y a pas très longtemps sur le sujet, avant que le scandale n'éclate, mais enfin sa montée, c'est que cette agence nationale va être confrontée à un problème directement, va devoir déployer des effectifs nouveaux, des procédures nouvelles, et que ça va porter préjudice à ceux qui sont scrupuleux et honnêtes.
Alors, dans la mouture des procédures, juste pour compléter ce que dit Henri, dans la mouture des procédés, le député Daniel Labaronne complète celui du projet de loi de Damien Marchive sur la mise en place d'un fichier national des diagnostiqueurs notamment, et d'un renforcement, en fait, pour lutter contre les fraudes aux aides de l'État, pour l'immobilier notamment. Benjamin.
Oui, alors moi je suis, d'une manière générale, pour les listes, à condition que ce ne soit pas trop contraignant, et pour qu'on puisse sécuriser les professionnels dans chaque activité, j'y suis favorable. Le tiers de confiance, depuis quand ? Moi, je crois que depuis que je suis rentré dans la vie professionnelle, j'entends ce terme. Et à chaque fois, on nous dit « Ah non, 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 ah, vous avez failli l'être, mais finalement, non, 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 on ne vous fait pas confiance. » Mais à quel moment on va comprendre que c'est notre domaine d'activité et qu'il faut nous confier, en fait, une mission avant de dire qu'on n'est pas capable de le faire ? Vous allez voir que si ça va être un effet d'aubaine pour certains qui, ça ne les intéressait pas de procéder à la vérification maintenant des radiateurs, des thermostats, et ben pour une question de rémunération, vous allez voir que beaucoup, beaucoup de gens vont s'y intéresser. Mais nous, professionnels de l'immobilier, ça se passe dans nos immeubles, avec nos clients.
Voilà. Oui, moi ça me paraît évidemment logique, puisque vous faites de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est votre rôle. Et vous la faites à plusieurs niveaux, vous la faites au niveau financier aussi, vous faites de l'AMO financier, vous faites de l'AMO technique, et vous faites aussi de l'AMO, pardonnez-moi, presque social, puisque vous arrivez à faire se concerter des personnes très opposées sur notamment la réalité des travaux. Il nous reste juste 3 minutes, et je voudrais vraiment qu'on parle de ça, c'est les contours du projet de loi de finances 2025, en sachant que c'est la première fois dans notre pays, depuis la naissance de la Ve République, que le budget d'une année pose problème, parce qu'il est probable, selon les éditorialistes bien évidemment, qu'il y ait un vrai blocage, et ça sera jamais vu, institutionnel, qui provoquerait, à l'instant où on a un blocage avec un gouvernement qui pourrait risquer à tout moment une motion de censure avec une unité des deux blocs aujourd'hui, c'est-à-dire la France insoumise avec la gauche et le RN, de faire tomber le gouvernement Barnier. Constitutionnellement, cela provoquerait une chose, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas d'adoption du projet de loi de finances, mais ça veut dire que c'est Bercy qui prendrait techniquement la main, autrement dit, pas des politiques, des technocrates dont vous savez bien évidemment quelles sont les demandes et en même temps les ajustements, ce qui serait assez délétère. Dans ce projet de loi de finances, nous voyons plusieurs choses. Le rétablissement du PTZ avec un élargissement à toutes les classes d'actifs justement et très largement au niveau national, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est mieux que de revenir à 2023. On est vraiment dans la dimension qu'on a connue, Henri, du PTZ à l'époque, qui est un vrai outil de resolvabilisation massive des Français, notamment pour les primo-accédants. Mais également, sur d'autres sujets, on a évoquer les droits de mutation à titre onéreux. Ça fait couler beaucoup d'encre. Hein. Bien évidemment, les professionnels ont été absolument vent debout en disant c'est encore une fois les primo-accédants qui paieront l'addition, etc. Là, il semblerait se dessiner une chose, c'est que les DMTO, donc les droits de mutation à titre onéreux, qui permettent de financer les collectivités locales, notamment les départements, seraient revus à la baisse. Le gouvernement a rétro-pédalé. Les primo-accédants ne seraient pas concernés, et également dans le 9, particulièrement. Nous avons interrogé, et je vais conclure là-dessus pour que vous puissiez vous exprimer, les maires, au salon des maires des collectivités locales. Nous avons fait une statistique, nous avons fait un sondage auprès d'une vingtaine de maires venus sur le plateau, 90% d'entre eux sont absolument contre l'augmentation des DMTO, parce qu'ils disent c'est fatal à nos concitoyens, alors qu'eux-mêmes en bénéficient bien évidemment, ils le disent, mais ce n'était pas la bonne solution pour trouver une issue au financement des collectivités locales qui, je le rappelle, ont vu fondre comme neige au soleil leur dotation et sont aujourd'hui exsangues en termes de financement, avec un État qui leur donne des leçons de gestion, ce qui est quand même paradoxal, alors que les collectivités locales ont l'obligation d'avoir un budget à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État. Henri Buzicazo.
Deux choses. Le budget d'abord. Je ne vais pas m'exprimer sur ce qui se passe politiquement, qui nous fait courir le risque que vous avez décrit, Sylvain, c'est-à-dire qu'on a un budget administratif, en quelque sorte.
C'est ça.
Et que
un budget technique.
La représentation nationale
Bercy prendra la main.
Ne puisse pas le signer, c'est terrible. On n'a pas vu ça depuis 1958, notre crise politique interne est d'une extrême gravité. Voilà ce que ça veut dire. Parce que pour le reste, le travail qui a été fait jusque-là, alors qui est mis en question, pourquoi? Parce que, effectivement, il y a aussi dans ce budget de grandes incohérences, et je ne parle pas du logement, et notamment la promesse n'est pas tenue de tailler essentiellement dans les dépenses pour faire des économies et afficher aux yeux de l'Europe un budget vertueux, mais de jouer de la fiscalité, et que cette incohérence, elle a été soulignée et refusée. Et puis beaucoup d'autres arrière-pensées feraient qu'il ne soit pas voté. Je rappelle déjà que l'Assemblée ne l'a pas voté, que donc il est parti au Sénat, ça déjà c'était une grande première, et que même il risque de ne pas pouvoir continuer le parcours avec le Sénat, puis de nouveau l'Assemblée nationale. Ça c'est une catastrophe, mais pour le pays et l'équilibre du pays. Parce que le budget du logement, tel qu'il avait été dessiné, il était imparfait dans le projet de loi de finances, mais les parlementaires, les députés avaient travaillé, la ministre avait travaillé, épaulée par les députés, pour améliorer la copie de son gouvernement. Quant à l'arrivée, il y a le prêt à taux zéro tel que vous l'avez décrit. Très bien.
Oui.
Bien sûr.
Il y a
une mesure, sans doute, de gratuité ou exonération partielle de droits de donation ou de mutation pour favoriser l'achat de logements et éventuellement de logements locatifs. Alors, ça ne vaut pas le statut de l'investisseur qui est attendu, mais c'était déjà quelque chose. Quand je vois un retour en arrière sur la réduction de loyer de solidarité pour les HLM, défendue par la ministre, ça, c'était bien. Un budget pour la rénovation énergétique sauvegardé, correct. Bref, à l'arrivée, on pouvait penser que le budget du logement serait très correct dans les circonstances. Dans les circonstances. Donc tout ce travail, vous imaginez qu'il est mis à bas et que demain, dans les mains d'un ministère de l'économie, ce sera évidemment un prêt à taux zéro rogné, alors qu'on lui donnait enfin du souffle, que la mesure droit de succession, je pense qu'elle va passer à la trappe, etc., etc. Moi, je ne suis pas candidat et je vois de très mauvaises nouvelles. Sur les droits de mutation à titre onéreux. Alors, voilà une incohérence du budget. Quand dans le budget, j'ai vu qu'on prenait 5 milliards d'euros aux collectivités locales, je me rappelle avoir dit à l'une de vos consoeurs d'un grand quotidien économique qui voulait que je regarde un peu en avant-première le budget, c'était pendant le congrès de l'UNIS à Rennes d'ailleurs, que la copie est sortie sous embargo. Quand j'ai commenté ce que j'ai pu commenter, puis quand j'ai vu les 5 milliards, j'ai dit mais écoutez, il y a une chose moi qui me frappe, ça c'est pas une mesure logement, mesure collectivité locale. Vous allez voir que ça va très vite être une mesure logement, parce que les collectivités locales, si on leur enlève les moyens des missions qui leur sont confiées, notamment les départements, je rappelle qu'ils ont les missions sociales, la petite enfance, le grand âge, etc.
Le RSA qui a été transféré par l'État, sans la recette qui va avec.
Mais évidemment. Ouais. Et donc, il était à parier que les collectivités locales, qui en plus sont vertueuses au plan budgétaire parce qu'elles ne peuvent pas ne pas l'être, elles ne peuvent pas donner des budgets en déficit à la fin de l'année, ce qui n'est pas le cas de l'État, qui ne s'en prive pas depuis des générations. Donc, les 5 milliards, les collectivités ont dit, mais écoutez, nous, on ne peut pas vivre avec ça. Le président Larcher, le Sénat représente les collectivités, a dit, il faudrait réduire à 2 milliards. On n'accepte plus de contribution, le pays ne va pas bien. Pas 5, 2. 5, on ne peut pas faire le job. Alors voilà. Et Michel Barnier, devant les départements, a lâché du lest sur les droits de mutation. C'était évidemment pas la bonne mesure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être injuste envers les collectivités. On leur enlève les moyens de faire le job.
Bien sûr.
Et donc elles disent.
Oui.
Et les maires qui sont au contact du public.
Absolument.
Peuvent dire ce n'est pas une bonne mesure, mais je pense qu'en leur âme et conscience, leurs collègues des départements, ils leur diraient écoute, je te comprends, c'est une très mauvaise décision, mais je te comprends. Parce que nous-mêmes, pour nous enlever la taxe d'habitation, qu'est-ce qu'on a fait ? On a augmenté les taxes foncières. Voilà. Ceux dont les collectivités ont besoin, et je rappelle que nous vivons grâce aux collectivités un quotidien plus agréable, à tous égards, si on leur enlève, il va falloir le trouver quelque part.
Voilà. Benjamin Darmenie, rapidement, sur la question.
J'ai pas grand-chose à dire de plus. Aujourd'hui, on essaye de diminuer tous les budgets, que ce soit les collectivités ou partout, sans regarder les conséquences. J'ai l'impression qu'ils ne regardent pas les conséquences. Qu'ils se disent, ça va passer.
Genre c'est pris à la babine.
Mais sincèrement, d'accord.
Je comprends.
Ce qu'ils perdent à droite, il faut bien qu'ils le récupèrent à gauche. Et là, quand on entend l'augmentation des frais de mutation, mais ça va être catastrophique. Aujourd'hui, ils disent, non mais vous comprenez, ça va concerner que 1 000 euros sur un achat de 200 000 euros. Non mais est-ce qu'on réalise bien que ces frais ne sont pas financés par les banques ? D'accord ? Que ça doit être de l'apport des clients.
Et aujourd'hui, 1 000 euros, ça va être encore... 1 000 euros, c'est un vrai budget. Absolument.
Et donc, j'en parlais la dernière fois avec un notaire qui me disait, mais ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça va avoir, encore une fois, sur le marché.
En sachant que sur les frais de mutation, à chaque fois on parle des frais de notaire pour rétablir l'équilibre, les notaires prennent qu'une toute petite partie des droits de mutation. Aujourd'hui,
ils sont les percepteurs.
Oui, absolument. Et qui sont quand même par les... Il va falloir qu'on puisse conclure. D'accord. Merci messieurs, c'était extrêmement intéressant parce qu'on a passé...
Juste une précision, parce que vous l'avez dit, mais j'insiste, le gouvernement a quand même compris l'absurdité et finalement,
il a rétropédalé,
était prêt à vider de la mesure de son sens.
Oui, oui.
60% de ceux qui paient les droits de mutation sont des primo-accédants, donc ceux-là en seraient isolés. 60%. Et les acquéreurs de neuf également. Bon, ça veut dire que.
Non, mais vous avez raison. Vous avez raison,
la bêtise a été comprise.
Ça veut dire que, voilà, je pense que là. Oui, effectivement, ils auraient pu y penser avant, mais ça a été absolument le cas. Merci Henri Buzy-Cazo. Je rappelle que vous êtes le patron de l'IMSI, l'Institut du Management des Services Immobiliers, journaliste, essayiste. Bien évidemment, celui qui questionne la profession dans son ensemble. Merci également à Benjamin Darmenie, patron du cabinet Maurice Burger, et vous êtes également le président du Cercle des managers de l'immobilier, bien sûr avec l'UNIS du Grand Paris, pour cette soirée qu'on va passer ici au Pavillon Dauphine. Merci messieurs.
Merci Sylvain.
Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec Axéo Drieux-Combalusier et Bâti Santé sur Radio Immo.